France Inter.
France Inter, Marion Lourd, le 5-6.
Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver au petit matin. Au programme du 5-6, aujourd'hui, elle voit dans la mer un océan de possibles. Portrait d'une juriste spécialisée dans les chroniques littorales. Le grand reportage nous emmène dans le sud de l'Ukraine où la guerre se gagne aussi sur le terrain linguistique. À 6h moins le quart, notre invité déjà debout nous proposera une dégustation de fromage avec nos tartines. Il y aura de la musique aussi dans le 5-6. Allez, je vous offre du Beyoncé et le meilleur de la playlist Inter, les rappeurs de Clips dans la chronique playlist avant de s'enivrer de la nuit dans Café Philo. Vous avez le programme pour ce matin, c'est parti. Je vous accompagne jusqu'à 9h sur France Inter.
France Inter.
Et on commence avec le journal de Féline Le Loir-Duhaut. Bonjour Féline.
Bonjour Marion, bonjour à tous.
Un mois de report pour l'accord entre l'Union européenne et les pays du Mercosur.
Ursula von der Leyen se dit confiante pour la signature du traité en janvier. Emmanuel Macron, lui, reste évasif. Il est trop tôt pour se prononcer. Mais ce délai d'un mois, Fabien Cazeau, à quoi va-t-il servir ?
Le desserrement du calendrier va d'abord permettre aux 27 de finaliser leur travail en cours pour muscler ce qu'ils appellent les clauses de sauvegarde. Des clauses additionnelles qui prévoient la suspension des importations agricoles en cas d'anomalie constatée sur les marchés, de trop grandes quantités d'importations ou des prix anormalement bas. Des clauses qui vont dans le bon sens selon la France, mais qui peuvent être encore renforcées. Ensuite, il y a encore et toujours la question des écarts de normes entre les pays du Mercosur qui autorisent plus largement le recours aux pesticides et l'Union européenne qui se montre plus restrictive. La Commission promet des contrôles renforcés à partir de janvier. La France dit vouloir juger sur pièce avant d'éventuellement donner son aval. Décision qu'elle se garde bien d'évoquer officiellement de peur d'attiser la colère du monde agricole qui compte bien maintenir la pression pendant ce nouveau mois de tractation à venir.
Notre correspondant à Bruxelles, Fabien Cazeau, et hier, plus de 11 000 agriculteurs sont venus manifester sous les fenêtres du Parlement européen. Une journée de manifestation très tendue, pneus enflammés et jets de pommes de terre contre les canaux à eau et les lacrymos de la police. Une colère agricole qui s'exprime aussi en France. Depuis plus d'une semaine, les agriculteurs mobilisés contre l'accord du Mercosur, mais surtout contre la gestion sanitaire de la dermatose bovine. Et à la veille des grands départs en vacances pour Noël, de nombreuses autoroutes sont bloquées. La 64 entre Bayonne et Toulouse, la 89 entre Périgueux et Ussel, ou encore la 41 en Haute-Savoie au niveau du péage de Saint-Martin-Bellevue. Et si la coordination rurale veut lever ce blocage, de nombreux éleveurs veulent continuer le mouvement, Mathieu Bonnour.
Réunis par petits groupes autour des barils avec des feux pour se tenir chaud, les agriculteurs discutent de la suite du mouvement. Patrick, éleveur de chèvres, veut rester ici.
Ce serait plus souhaitable un blocage dans la durée. Quand on attaque, on attaque. Donc les vacanciers, soit ils rejoignent, soit ils sont bloqués.
À côté, des jeunes veulent bloquer totalement l'autoroute. Nicolas calme un peu les esprits, mais lui aussi pense qu'il faut montrer les muscles.
Si il faut se faire entendre et puis il faut bloquer pour pas que les gens arrivent en station, on le fera.
Cet éleveur laitier attend un changement du gouvernement sur la stratégie vaccinale contre la dermatose.
On est dans une période où il y a un peu moins de boulot. On a le temps, on peut rester là encore quelques jours, c'est pas grave. Mais l'avantage, c'est que sur les axes qu'on a là, Haute-Savoie à Savoie, en 2-3 barrages, ça peut être compliqué pour le premier week-end des vacances.
De nombreux camions et voitures klaxonnent au passage. Avec des mots d'encouragement, c'est précieux et c'est pour ça qu'il faut lever le barrage filtrant cet après-midi pour Christian Convert, le coprésident de la coordination rurale des Savoies.
Nous, on ne veut pas embêter la population. Par contre, c'est très clair, on est déjà en train de préparer et de s'organiser pour début janvier pour avoir quelque chose de beaucoup plus conséquent.
Les agriculteurs doivent se réunir dans la journée pour décider ensemble s'ils restent sur l'autoroute ce soir et ce week-end.
Et ce matin, le Premier ministre Sébastien Lecornu va recevoir les syndicats agricoles dès 8h30. De son côté, le ministre des Transports, Philippe Tabarot, appelle à la levée des blocages pour ne pas retarder la circulation des marchandises avant Noël.
7 sénateurs et 7 députés réunis à huis clos.
Dans quelques heures, la commission mixte paritaire se réunira pour trouver un accord sur le budget de l'État. Et l'espoir d'une issue positive semble plus qu'incertaine. En cas d'échec, le Premier ministre pourrait envisager la loi spéciale. Cette mesure, elle, fait partie du budget de la sécurité sociale. Le congé de naissance va entrer en application le mois prochain. Tous les parents d'un bébé né à partir du 1er janvier pourront bénéficier de 2 mois supplémentaires, même si le dispositif entrera réellement en vigueur dans le courant de l'année.
un prêt de 90 milliards d'euros débloqué pour l'Ukraine.
C'est la décision prise cette nuit par l'Union européenne pour continuer à soutenir Kiev dans sa guerre contre la Russie. Pour le dirigeant allemand Friedrich Merz, l'UE envoie un message clair à Vladimir Poutine. Les dirigeants européens qui ont annoncé plus tôt dans la soirée ne pas avoir trouvé d'accord sur les avoirs russes gelés. Aux États-Unis, le suspect de la fusillade à l'université Brown s'est suicidé. Ce ressortissant portugais était recherché depuis une semaine par la police. Samedi dernier, il a tué 2 personnes et en a blessé 9 autres. Après l'attentat sur la plage de Bondi à Sydney dimanche dernier, le Premier ministre australien Anthony Albanese annonce le lancement d'un programme de rachat des armes à feu, une mesure qui avait déjà été mise en place dans le pays après une autre fusillade en 1996. Anthony Albanese qui veut davantage limiter la circulation des armes car les 2 tireurs de Sydney détenaient plusieurs fusils d'assaut légalement. L'Australie va aussi observer une journée de recueillement ce dimanche en mémoire des 15 victimes qui ont perdu la vie dans cet attentat antisémite.
En France, les services hospitaliers sous tension face à l'épidémie de grippe.
Aucune région n'est épargnée. Au CHU de Nice, le taux de passage aux urgences a bondi de 200% ces 10 derniers jours. En moyenne, une quinzaine de patients sont hospitalisés chaque jour à cause de la grippe. Et ça inquiète la chef de service des urgences, la professeure Julie Contenti.
On a peur, hein, il faut vraiment le dire, parce que comme on est une semaine un petit peu plus tôt que l'année dernière, et ben on va rentrer vraiment dans le pic épidémique de la grippe, normalement fin de semaine prochaine ou deuxième semaine de vacances. C'est une période qui est difficile pour l'hôpital, parce que vous avez aussi beaucoup d'agents qui posent leur congé à ce moment-là. Et donc, en fait, il y a différentes choses qui s'imbriquent, qui rendent encore le système un peu plus compliqué. Donc là, je vous dis, on a réussi à ouvrir des lits supplémentaires. On est à 16 lits supplémentaires ouverts par rapport à notre capacité maximale, en tout cas d'hospitalisation. Et on réfléchit encore là plusieurs fois par jour. On se réunit 3 fois par jour avec la direction générale et l'ensemble des services de soins de l'hôpital pour essayer à nouveau de trouver des lits disponibles à ouvrir en plus. Et c'est ce qu'on fait. On réfléchit à ouvrir une aile, en tout cas un service, on va dire, spécifique grippe, fin de la semaine ou la semaine prochaine, si c'est possible.
Et à 6h20, nous recevrons Anne-Claude Crémieux, qui est infectiologue et qui est en charge des vaccinations.
Oh, attention aux faux lutins de Noël. Près de 11 millions de jouets contrefaits ont été saisis cette année par les douanes françaises. C'est 2 fois plus que l'an passé. Des faux autocollants, des fausses peluches ou encore des fausses figurines en plastique qui sont pour la plupart vendues en ligne. Les douanes rappellent qu'ils présentent un risque direct pour la sécurité et la santé des enfants.
C'est l'affaire qui a ouvert la voie au MeToo français il y a 6 ans.
Le réalisateur Christophe Rougia est jugé en appel aujourd'hui pour les agressions sexuelles commises sur l'actrice Adèle. À l'époque, elle avait entre 12 et 14 ans. Au premier procès, le réalisateur avait été condamné à 4 ans de prison, dont 2 ans ferme. Une triple perquisition pour Rachida Dati hier, à son domicile, à son bureau dans la mairie du 7e arrondissement et au ministère de la Culture. Celle qui est candidate pour les municipales à Paris est sous le coup d'une nouvelle enquête pour corruption. Un coup dur à moins de 3 mois des élections.
C'était le journal de Féline Leloir, Duo. Il est 5h08 sur France Inter.
La météo avec les œufs de Loué. Savourez les œufs fermiers de Loué, de poules élevées en liberté. Loué, libre par nature.
Grisaille et douceur au programme, Céline Dacosta.
Dès le matin, les pluies s'étendront de l'Aquitaine aux Ardennes en passant par la région centre. Au nord de cette zone, le temps sera plus calme avec des éclaircies, notamment sur la Bretagne. Et puis plus au sud, le ciel va rester très nuageux avec des averses régulières sur le Languedoc, le sud de l'Auvergne, la région Rhône-Alpes jusqu'à la région PACA. Dans l'après-midi, on aura peu d'évolution. Les pluies vont persister sur ces secteurs. Elles seront même plus soutenues sur les Cévennes avec le retour de la neige en altitude sur les Alpes du Sud ou les Pyrénées. Quant aux températures, elles resteront très douces jusqu'à 16 degrés attendus à Marseille, 14 à Paris et 20 degrés la maximale pour Ajaccio.
La météo de Céline Dacosta.
France Inter. Marion Lourd. Le 5-6.
5h09 à suivre sur France Inter. Elle aide les entreprises qui s'engagent pour la mer. Portrait d'une juriste dans les chroniques littorales. Notre invitée déjà debout nous mettra en appétit. Elle produit du fromage dans le Béarn. Production vertueuse en plus, vous verrez. Il sera question de nos belles fesses dans la chronique D'où ça sort. Et puis Tanguy Pastureau maltraite l'info et nous emmène au marché de Noël. Ça sera à 5h25. Mais avant tout ça, musique sur France Inter avec le rappeur suisse Makala et son titre aux inspirations japonaise, Hôtel Yotsuya.
fait.
Je suis revenu pour les Toti, Anna. Mais je suis prêt pour la bagarre, Anma. Je suis fidèle à la squadra, Toti. Jamais je peux oublier d'où je viens. Donc, espère que ça m'écoute dans l'allée. 300 pompes avant d'aller, en aller. Elle me dit que je devrais plus compter sur elle. Je pose mes billets de son coq si ça s'annuque. Oh, salut. Viens nous voir, on est posé dans le noir. Slimka, tire une light. Suis l'odeur ou la light, tu plains. Parle en bref, gros, fais-nous pas un grunt. On l'a, on l'étale. L'étale, même avec l'étale. Parce que c'est par plaisir qu'on les tape. Wow, je me lève. Quoi, je rêve. Comment ça des factures dans ma boîte aux lettres? Ce qui augmente le tourisme à Genève. À chaque statue, je mérite une statue. J'espère que c'est clair, bitch, yes. Bientôt je fais un feat avec toi. Ta carrière explose, je me réveille, fiche S. Je sais pas si on a des vies antérieures. Mais je sais que je suis une merde dans aucune entre elles. Ok, sans aucune gangster. Quelques grammes, tu nous en fais des tonnes. Tu t'es pris pour un Tony, des Tony. Nous on te prend pour un Tommy, des Tommy. Un bouffon qui sait manger des puffres atomiques. Personne t'écoute, ça t'étonne. Y'a des refs qui veulent quitter le rinté. Mais le rinté est long comme dans Olivier Tom. Le monde est drivé par la folie des hommes. J'ai été élevé par la plus forte des femmes. Un seul de ses regards peut désarmer désormais. Tu comprends d'où je viens désormais. J'suis là pour régner des années et des années. Regarde en face et des âmes. Je vais remplir des bagues, faut garder vos bagues. Ma me drague. En plus c'est des femmes mariées qui me draguent. C'est quoi ça? Je suis qui moi? Le seigneur des anneaux? Non, mon karma, je dois penser à mon karma. J'ai déjà mon quota de rage qui regarde mal. Si tu trouves pas une raison de vivre, cherche pas une raison de me casser les couilles, putain. Tu m'as vu sur scène. Je les fume, tu sais. Ceux qui s'aiment récoltent. Je suis mon propre pote. Les veines pop comme boue. Mais comme boue le dit. Tu dis que tu kiffes la vérité. M'oblige pas à vérifier pour voir si t'es apte à parler quand. Si t'es pas là jusqu'à l'aller. Si tu veux mon sang, je te laisse sucer. Et coule à flot, tu risques de glisser. Aujourd'hui, le vide est très bien habillé. Mais sans les caméras, il galère à briller. Alors que si le message est clair, le message est clair, les cœurs, mais y'a du chemin. Bande de slaves, personne va vous save. Cause de vous, les types restent type. Faut le dire, bien fort. Fausse hype, fausse trip. Cause de kick, le rap français est proche de la police comme Sting. Slim, tire une ils vont pas cette smoke, ok. Y'a beaucoup de médias qui sont bons. Vont gagner fort, miser le rap. Ils leur jettent des fleurs quand ils sont up. Mais quand les frérots perdent leur hype, tout d'un coup, ils nous parlent d'originalité. Le mainstream porte toujours le même string.
Hôtel Yotsuya de l'artiste Makala qui sera en concert au Zénith de La Villette à Paris le 27 novembre 2026. 5h13, c'est l'heure de notre rendez-vous avec les chroniques littorales. Bonjour José-Manuel Lamarque.
Bonjour Marion Lourd.
Avec, comme chaque vendredi, un portrait marin. Et ce matin, José-Manuel, vous recevez une juriste océanique.
En la personne de Sarah Lelon, docteur en droit et biologie marine.
Bonjour.
Qu'est-ce que ça veut dire être docteur en droit et biologie marine?
Ça veut dire que moi j'étais juriste à l'origine.
Oui, à l'origine, oui.
Et on m'a donné la possibilité de faire une thèse. C'était une thèse qui était cofinancée par le ministère. C'était le ministère de la Recherche. Où on me donnait la possibilité d'être financée à la condition que je ne me cantonne pas à ma discipline, mais que j'aille explorer d'autres disciplines.
Vous êtes allé voir la biologie marine.
Et du coup, comme le sujet qui m'intéressait, c'était le sujet de la pêche, je trouvais ça assez cohérent de mettre en résonance l'approche scientifique. Parce que je ne me suis pas contentée que de la biologie, mais l'approche scientifique au sens large et le droit.
Alors comment marie-t-on le droit et la biologie marine?
C'est une question 20 ans après que je me pose encore. On essaye, tant bien que mal. Ouais. C'est pas toujours évident parce qu'on a une approche de l'océan vivant, on va le dire comme ça, qui est assez récente finalement dans l'histoire, au-delà de la fascination qu'on peut avoir pour des espèces emblématiques. Mais du coup, on n'a pas formé les juristes et les légalistes à prendre des décisions en tenant compte de le vivant, de ses particularités et de la science.
Et Sarah Lelon, sauf pour le droit maritime, parce que les juristes maritimes, ils travaillent aussi avec les scientifiques, parce que les scientifiques ont dit « Ah, j'ai découvert un truc, il faut tout de suite venir, parce qu'eux, ils vont statuer sur la découverte. »
Moi, j'observe les décisions qui sont prises, je les analyse et j'analyse les processus de décision. Mais même dans le droit maritime, on se rend compte que c'est encore assez récent. C'est finalement très récent qu'on fasse raisonner science et droit, parce que c'est pas le même langage, parce que c'est pas les mêmes temporalités. On n'adopte pas la loi au même rythme qu'on a des découvertes scientifiques. scientifique.
Et pourtant, tout doit être en latin quand même.
Et pourtant, oui. Pourtant, la base reste le latin pour les deux disciplines. Oui.
Non, mais c'est bien. Et vous, donc, Sarah Lelong, alors aujourd'hui, vous êtes juriste en biologie marine. Qui vous appelle ou qui vous consulte ?
Aujourd'hui, les gens avec qui je travaille, c'est principalement l'administration, l'État, les différents ministères qui se succèdent assez régulièrement. Donc, je travaille beaucoup avec eux, avec France Agrimaire, qui est une émanation du ministère de l'Agriculture.
Et pourquoi a-t-on besoin de vous ?
Moi, le cœur de mon métier, c'est justement ça, c'est de faire dialoguer les gens. Et très souvent, on est sur des sujets très complexes quand on parle d'océan et de pêche en particulier. C'est des sujets vraiment extrêmement complexes. Et on se rend compte qu'il y a beaucoup de points de conflit ou de points de blocage qui sont là parce qu'on n'arrive pas à parler la même langue. Et l'avantage de la formation que moi j'ai faite, c'est que j'ai appris à parler la langue un peu de tout le monde. Et j'essaye de faire l'intermédiaire. Quand on me demande ce que c'est que mon métier, je suis un tiers acteur.
Faites du plaidoyer.
Du plaidoyer, ça m'arrive. Bon, ça, c'est plus dans ma casquette de présidente d'association. Ouais. Mais
quelle association ?
Respect Océan. Respect Océan, c'est une association qui a plus de 8 ans maintenant, qui a été fondée par Raffaella Le Gouvello, qui était navigatrice, qui est née comme un réseau d'entreprises qui avait envie de s'engager pour l'océan, mais qui ne savait pas trop comment faire et qui s'est dit, si on se met ensemble, on va bien trouver des solutions pour pouvoir le faire. Et aujourd'hui, c'est une association qui compte un peu plus de 80 membres. La dernière de nos actualités en date est dépositaire d'une résolution à l'UICN sur l'économie bleue régénérative.
Qu'est-ce que c'est que l'UICN ?
L'UICN, c'est l'Union internationale pour la conservation de la nature. Et justement, c'est une belle aventure et c'est des entreprises engagées qui veulent montrer que le monde économique et la protection de l'océan sont pas antinomiques, qu'on peut faire des choses ensemble.
Si je vous pose la question, que représente la mer pour vous ?
C'est très cliché ce que je vais dire, mais un océan de possible.
C'est pas tellement cliché, c'est très ouvert.
Ouais, c'est très ouvert.
Et c'est très espérant.
Oui, pour moi, c'est beaucoup d'espoir, en fait, dans le monde océanique. C'est plein de choses, c'est l'émerveillement, c'est les découvertes, l'aventure, et aussi tous les possibles qu'on s'ouvre en matière de science, en matière de médecine, en matière de relation à l'autre aussi. Et on oublie souvent une dimension de l'océan, c'est toute la dimension géostratégique et géopolitique. Et aujourd'hui, il y a des grands enjeux qui sont en train de se passer en mer et qui sont absolument passionnants, parfois inquiétants. Mais du coup, pour moi, c'est ça. La mer, c'est un océan de possibles.
Merci à vous, Sarah Lelong. Un site internet, en un seul mot, respectocean.com. Bonne journée, Marion Lourd.
Bonne journée, José-Manuel Lamarque. Il est 5h17.
Le 5-6. Sur France Inter.
Les unes de la presse ce matin s'intéressent à nouveau beaucoup à notre porte-monnaie et à nos finances. Budget, l'impossible accord entre l'Assemblée et le Sénat, c'est le gros titre du Figaro alors que démarrent les discussions sur le sujet en commission mixte paritaire. 7 députés, 7 sénateurs. Les travaux commencent aujourd'hui mais selon le quotidien, ils seraient déjà en passe d'échouer. Vision bien sombre de la conjoncture éco en une du Parisien aujourd'hui en France. Les restos ne font plus recette. Le journal liste les raisons de cette morosité. Pouvoir d'achat en berne, difficultés post-Covid et concurrence des fast-foods. En photo, un serveur courbé sur une table nous tourne le dos. Les échos s'inquiètent du coût en hausse des futurs réacteurs nucléaires EPR, mis en service prévu en 2038 pour produire de l'électricité. Le coût est passé en 5 ans de 58 à 83 milliards d'euros. Plus positif, le journal L'Opinion promet des lendemains qui chantent. Bourse, marché, tous optimiste pour 2026. Les actifs financiers seraient portés par la vague de l'intelligence artificielle et la résilience inattendue de l'économie mondiale. Le caricaturiste CAC nous montre des patrons et financiers en cravaté qui font les montagnes russes sur les hauts et les bas des marchés. Gros sous, tracteurs et animaux, les agriculteurs sont nombreux en une de vos journaux aujourd'hui. Avec les discussions européennes sur le traité de libre-échange avec le Mercosur et l'épidémie de dermatose bovine, les bovins de la colère balancent les sous le portrait d'un éleveur au regard triste, tirant derrière lui sa vache aux grands yeux noirs. Mercosur à Bruxelles, un Conseil européen sous haute tension. C'est une photo du ventre de une du Figaro. Bruxelles, sous pression des agriculteurs, renchérissent les échos entre deux rangées de tracteurs. Depuis, la signature du traité a été la nuit dernière renvoyée au mois prochain. Au chapitre écho, encore, l'humanité nous invite à la méfiance avec ce titre, e-commerce, Père Noël sous influence. Le quotidien dénonce, je cite, les pratiques manipulatoires des plateformes. Et dans les bonnes nouvelles, la Croix se réjouit de l'accessibilité grandissante des spectacles vivants qui s'organisent pour accueillir mieux les personnes en situation de handicap. Les Échos, eux, nous invitent en dépit des polémiques, les Échos Week-end dans l'envers du décor du Moulin Rouge. Ses 90 artistes et ses 600 000 spectateurs annuels. Et puis un petit Christmas treat personnel. Le Parisien Week-end nous offre une so-British, Big Ben, tartan et bus à Impérial pour un dossier consacré au Beckham, un couple so-royal. Nos hanches et nos fesses au programme hier de Zoom Zoom Zen. L'émission s'intéressait au mot calipige, rapport au corps et à sa beauté, ainsi qu'à ses proportions. Mais d'où ça sort la calipige, Cyril Lacarrière?
Imaginez l'antiquité grecque, les sculpteurs de l'époque obsédés par la perfection des formes, l'harmonie des proportions et bien sûr la beauté des corps nus. Leur modèle parfait a un nom, Aphrodite, déesse de l'amour. C'est de cette vieille histoire que vient notre mot du jour, calipige. Manière de parler de la beauté des fesses sans tomber dans la vulgarité. Car si on utilise calipige aujourd'hui pour désigner une forme particulière d'esthétique, il est né dans un contexte très précis, celui de la dévotion et de l'humour antique. Décortiquons ce terme grec. Il se compose de deux racines, kalos ou kali, qui signifie beau ou et pige, qui signifie fesse ou derrière. Littéralement, on peut donc dire que le calipige, c'est celui ou celle qui a de belles fesses.
Mais un terme qui va même se retrouver accolé à une statue.
Une statue très célèbre même, l'Aphrodite calipige. Il y en a une au Louvre d'ailleurs, si personne ne l'a piquée entre-temps. Elle représente la déesse Vénus en train de soulever son drap pour regarder par-dessus son épaule et contempler son postérieur. Moins facile que le miroir évidemment, mais plus sympa pour une représentation en statue et devenir une icône. Le calipige au départ, c'est comme une ode à la proportion, aux proportions parfaites. Une éloge du galbe, et le terme va vite dépasser le cadre de l'art et du langage savant pour désigner une personne aux formes généreuses et harmonieuses. Alors, d'où ça sort le calipige ? Eh bien, d'une simple statue d'Aphrodite, et ce n'est que le début de notre histoire.
C'était Cyril Lacarrière dans l'émission de Mathieu Noël. Ils fêteront Noël en avance tout à l'heure avec notamment le chef Maurice Sacco et la DJ Barbara Butch. Rendez-vous à 16h et en public depuis la Maison Ronde, la maison de la radio 116, avenue du président Kennedy. 5h21, dans un instant, ambiance de fête, toujours avec l'humour de Tanguy Pastureau qui nous parlera des marchés de Noël. Mais tout de suite, la chanteuse britannique Lola Young qui raconte sa tendance à s'auto-saboter. Elle chante « Dealer » sur France Inter. De Lola Young. Il est 5h23.
France Inter.
Et Tanguy Pastureau nous parle d'un endroit qu'il aime particulièrement et qui ne mérite pas les récentes polémiques.
Alors oui, j'aime les cures. Oui, j'aime la noirceur. J'ai une housse de coussin à l'effigie de Mathilde Panot. Ok, j'ai l'âme noire. J'aime bien Mélodie, mais si ça avait été ma fille, je l'aurais appelée Chant Funèbre. Et en même temps, vous voyez les marchés de Noël ? J'adore. J'aime la joie enfantine de ces petits chalets mal décorés, peuplés d'artisans précaires. On dirait des schtroumpfs qui se seraient fait dépigmenter la tête. Dans le marché de Noël, tout est stratégique. Le premier chalet, celui de l'entrée, vend du vin chaud que Frédéric, 45 ans, qui porte des bois de Rennes en serre-tête, renonçant ainsi à sa dignité, charge en alcool. Ce qui fait que, ivre, les clients ensuite achètent n'importe quoi. Des saucissons au paprika, des pierres montées en collier. Chaque pierre ayant soi-disant une propriété. Vous offrez de l'ambre à votre mari parce que l'étiquette indique et concentration et mémoire, en vous disant ça va l'aider à se souvenir que notre anniversaire de mariage c'est le 12. Le 12, il est là devant le foot avec une 8-6 et vous pleurez en disant l'ambre, c'est nul parce que c'est une arnaque. Spoiler, les pierres n'ont pas de propriété. Exemple, c'est véridique, j'ai vérifié, le granit est censé empêcher la perte des cheveux. J'ai passé la moitié de ma vie en Bretagne. Regardez-moi. Qu'est-ce qu'il fallait faire exactement? Se frotter le crâne sur la maison du voisin? Arrêtez avec ça. Une pierre est une pierre. Dans le village de Noël, il y a toujours un vendeur de churros. Comme l'été d'ailleurs. Les churros, c'est le seul business à fonctionner toute l'année. Je ne sais même pas pourquoi Xavier Bertrand se présente à la présidentielle 2027 alors qu'il pourrait vendre des churros. Autre chalet star. Les bougies parfumées. Attention, ça sent bon parce qu'on est à l'extérieur. Une fois allumé chez vous, vous réalisez que le parfum Flamencuche n'était séduisant que sur le papier. Et puis le dernier truc qu'il y a toujours, ils sont fatigants, c'est le chalet péruvien là, avec des écharpes qui pullent la main en fin de vie. Bref, je fais part de trop de cynisme hein, dans cette chronique quant au marché Noël et je souille l'esprit des fêtes de fin d'année. Mais en réalité, bah, j'aime cette ambiance, le Père Noël qui parle aux enfants, les beignets, Last Christmas de Wham dans les enceintes, c'est mignon. On oublie nos soucis. Et puis vous avez sûrement suivi la polémique de l'article de France Info disant qu'il y avait un lien entre les nazis et les marchés de Noël. Ils ont même été obligés de retirer l'article parce que tout le monde leur est tombé dessus. Moi, j'étais énervé également parce que les nazis n'étaient pas de belles personnes. Alors, savoir qu'eux aussi achetaient des chaussettes avec des lutins, ça paraît bizarre. Des lutins blonds, blancs, musclés, qui regardent le soleil levant en se disant avec Hildegarde, on va foutre dehors les lutins juifs. D'après ce que j'ai lu, et Bruno Solo, spécialiste de l'histoire, validera ce que je dis, puis dans un deuxième temps, il validera l'ensemble de ma carrière, les marchés de Noël nés au XIIIe siècle ont été en fait relancés sous le Troisième Reich pour écouler des produits allemands. Ça ne veut pas dire qu'actuellement, ils sont nazis. J'ai pas vu le moindre bretzel en forme de croix gammée. Mais ça a mis hors d'eux des tas d'internautes qui ont dit qu'on insultait la religion chrétienne. Ségolène Royal, la célèbre star qui fête ses 20 ans de présence à France Travail, a même parlé d'une méchanceté des obsessions anti-Noël. C'est méchant, méchant. Elle a la rhétorique d'un CP qui n'a pas de langue. Bref, dans les faits, personne ne conteste l'idée que les nazis ont relancé les marchés de Noël. Et je ne comprends même pas que ça pose problème. Qui pense que dire ça revient à dire qu'aujourd'hui, les marchés de Noël sont nazis? Parce que si vous pensez ça, rouler en BMW, saper en Hugo Boss, soit la vie d'un dealer de base. C'est presque prêter allégeance à Adolf Hitler. Les marchés Noël sont donc dénazifiés. C'est pareil que la fête des mères. Vous savez, il y a toujours quelqu'un pour dire que c'est un truc du maréchal Pétain. En général, c'est celui qui n'a pas envie de faire un cadeau à sa mère qui dit ça. En réalité, la fête des mères existait 25 ans avant la guerre et Pétain l'a relancé, là aussi, en lui donnant une dimension travail, famille, patrie. Vous savez, c'était son truc. Donc, bonne nouvelle. Les nazis, les collabos sont tous morts. S'il en reste un, il a 104 ans. Et jamais ils ne reviennent dans la mémoire de quiconque se balade sur un marché de Noël. On retiendra d'eux, pardon, cette abomination, cette extermination de masse, et pas qu'en 39 ou en 41, ils ont fait vendre à quatre pleu-pleu des boules de Noël avec l'eau de taré à moustache épilée à la brésilienne peint dessus. Donc profitons de ce vin chaud, de ces sculptures en fer réalisées en canette de soda représentant l'âne ou le bœuf, du fait d'entendre Wham dans la rue, Last Christmas, ah oui. I gave you my heart, c'est tellement chouette quoi. Les méchants ne gagnent jamais, Madame Royale, surtout à Noël, parce qu'à Noël, il y a de la magie dans l'air.
Tanguy Pastureau maltraite l'info du lundi au vendredi dans la bande originale de Nagui et Leïla Kadour. Rendez-vous tout à l'heure, 11h10, dans une poignée de secondes, le journal.
Comment est venu le temps des cathédrales ?
France Inter, 14h, Stéphanie Duncan.
Que s'est-il passé au Moyen-Âge pour que partout en Europe, des bâtisseurs aient décidé quasi simultanément d'édifier des cathédrales plus grandes, plus lumineuses, rivalisant de richesse et d'audace architecturale ? On en parle avec l'historien Mathieu Lours.
Le fil de l'histoire.
C'est tous les jours à 14h sur France Inter.
5h28 sur France Inter et Ali Badou vient de me rejoindre.
Bonjour,
Ali Badou lui-même
Lourdes.
En chair et en os dans ce studio pour avant-goût du 6-9. Bonjour Ali.
En chair surtout avant fêtes. Vendredi 19 décembre à 6h20 et à l'approche des fêtes, comment éviter les virus? C'est la question que nous nous posons tous ici à France Inter et chez vous également, chers auditeurs. Anne-Claude Crémieux, professeure de maladies infectieuses, sera votre invitée. Marion, elle préside la commission technique des vaccinations de la Haute Autorité de Santé. Et à 7h45, un débat d'actualité brûlante avec Thomas Porcher et Dominique Seux. Mercosur, la France a-t-elle raison de le bloquer? Nous verrons les pour et les contre et ce débat qui sème la zizanie. À 8h20, le grand entretien avec François Villeroy de Gallo, gouverneur de la Banque de France. La Banque de France qui vient de publier ses prévisions pour l'économie du pays jusqu'en 2028. Il viendra nous faire un diagnostic de l'économie française à quelques jours de la fin de cette année 2025. Voilà pour le programme.
À tout à l'heure, Ali.
À tout à l'heure.
France Inter, il est 5h29. Le journal Féline Le Loir du Haut. Bonjour Féline.
Bonjour Marion, bonjour à tous.
L'accord de libre-échange avec le Mercosur sera-t-il un jour voté?
Rien n'est moins sûr. Le texte devait être signé au Brésil ce week-end, mais il est reporté au mois de janvier. Les dirigeants européens qui se sont réunis toute la nuit pour discuter des différents dossiers, le traité du Mercosur au centre des débats et surtout sa signature ou non dans un mois, Emmanuel Macron n'exclut aucune possibilité.
C'est trop tôt pour vous le dire, je ne sais pas. Beaucoup de gens nous ont dit, quand on a dit il y a plusieurs mois qu'il fallait clause de sauvegarde, des clauses miroirs, que ça allait être possible. Moi-même, j'étais il y a quelques semaines, je suis positif mais vigilant et on voyait des avancées. Puis après, on n'a pas été assez vite. Donc, ce qui m'importe, c'est le fond. Ce qui m'importe, c'est de tenir les engagements. Ce qui m'importe, c'est qu'on fasse ce qu'il faut pour protéger notre agriculture, pour protéger notre sécurité alimentaire, pour protéger le budget de la PAC. Donc, je ne sais pas répondre à votre question aujourd'hui. Je l'espère, parce que ça veut dire qu'on aura obtenu des avancées, pour certaines qui sont des avancées historiques, parce que ça fait bien longtemps qu'on demande les mesures miroirs. Et la clause de sauvegarde aussi. Ça veut dire qu'on doit bouger sur ces sujets-là. Le plus vite possible, mais il faut du concret.
Autre dossier brûlant étudié cette nuit par l'Union européenne, la question de l'aide financière à l'Ukraine en guerre face à la Russie. Promesse tenue des 27 qui débloquent un prêt de 90 milliards d'euros, mais sans toucher aux avoirs russes gelés. Le Danemark va convoquer l'ambassadeur russe, car selon le gouvernement danois, les deux cyberattaques qui ont touché le pays, l'une lors des élections municipales et régionales en novembre et l'autre contre une usine de traitement des eaux fin 2024, seraient toutes les deux liées à des groupes proche de la Russie.
Et à partir du 5 janvier prochain, vous risquez de trouver porte close au bloc opératoire.
Plus de 2000 chirurgiens, anesthésistes et gynéco-obstétriciens des cliniques privées vont participer à une mobilisation baptisée Opération Bruxelles. Pendant 5 jours, ils vont s'exiler symboliquement en Belgique pour démontrer combien ils sont indispensables au système de santé français. Car Victor Delande, pour ses médecins spécialistes, leurs actes médicaux n'ont pas suffisamment été revalorisés par l'assurance maladie ces dernières années.
Ces médecins du secteur 2 ont eu fortement recours à des dépassements d'honoraires ces dernières années, plus 5% par an depuis 2019. Des dépassements indispensables selon Philippe Cuc, chirurgien vasculaire à Toulouse et co-président du syndicat Le Bloc.
Avec des charges professionnelles qui ont considérablement augmenté, des charges salariales, des redevances dans les établissements, toute l'innovation thérapeutique, tout ça pèse et donc nous avons besoin des compléments d'honoraires.
Dans le nouveau budget de la Sécurité sociale, ces médecins spécialistes ne pourront plus pratiquer de dépassements d'honoraires sur certains actes, notamment pour les patients atteints d'affections de longue durée, ils sont résolument contre et vont donc fermer les blocs opératoires début janvier.
On a déjà déprogrammé des patients pour les deux premières semaines de janvier. Il y aura très peu d'activités au début janvier pour qu'à partir du 9 janvier, les établissements soient vides et que l'activité soit nulle.
Les maternités seront également touchées. Bertrand de Rochambeau, président du syndicat national des gynécologues obstétriciens, veut rassurer les futures mamans.
Ces patientes-là sont informées qu'il y aura un important mouvement social et que dans ce cadre là, la maternité va être fermée. On ne les abandonne pas, on va les confier à nos collègues des maternités publiques autour.
Les conséquences seront forcément très importantes puisqu'une maternité sur 5 en France est privée.
Et tous les syndicats de médecins généralistes appellent à un arrêt d'activité entre le 5 et le 15 janvier. Eux aussi se mobilisent. Depuis plus d'une semaine, les agriculteurs français en colère contre l'accord du Mercosur. Certains étaient d'ailleurs à Bruxelles hier, mais surtout contre la gestion sanitaire de la dermatose bovine. En tout, 110 actions comptabilisées hier par le ministère de l'Intérieur et plusieurs autoroutes toujours bloquées. La 64 entre Bayonne et Toulouse, la 89 entre Périgueux et Ussel ou encore la 10 au nord de Bordeaux. Vinci Autoroute annonce que la circulation risque d'être encore plus compliquée que prévu ce vendredi et ce week-end pour les départs en vacances. De son côté, le Premier ministre Sébastien Lecornu doit recevoir les syndicats agricoles ce matin à Matignon pour de nouvelles négociations. Une avancée historique salué par les associations féministes. Hier, le Parlement français a définitivement réhabilité les femmes condamnées pour un avortement avant l'adoption de la loi Veil en 1975. Entre 1870 et la dépénalisation de l'IVG, plus de 11 000 femmes ont été condamnées pour avoir eu recours ou avoir pratiqué un avortement clandestin.
Un portrait géant de Christophe Glaise sur la façade de la Fédération française de football.
Une manière pour la fédération d'afficher son soutien aux journalistes sportifs, condamnés en appel en Algérie à 7 ans de prison pour apologie du terrorisme. Le pire, c'est l'oubli, rappelle Philippe Diallo, le président de la fédération. Il annonce aussi qu'une annonce au micro sera faite ce week-end lors de tous les matchs de la Coupe de France. Et puis, il y a des deuxièmes places qui ont un goût de victoire. Aux Mondiaux de biathlon hier, Lou Jean Monod est passé à 3 petites secondes de remporter le sprint face à la Suédoise Hanna Höberg, avec, dans les tribunes, un public entièrement acquis à sa cause.
C'était le journal de Féline Leloir Duo. Bonne journée, Féline.
Merci Marion, à vous aussi.
Dans la douceur et la grisaille, temps humide aujourd'hui sur le sud-est et l'Aquitaine, et de l'Aquitaine aux Ardennes, avec des pluies généralement faibles. Elles deviennent soutenues sur les Cévennes et localement en plaine du Languedoc. Averses également sur la région PACA dès ce matin, puis en Rhône-Alpes l'après-midi jusqu'au Jura ce soir. La neige revient à partir de 2000 mètres. Le ciel sera plus lumineux avec de belles éclaircies cet après-midi en Bretagne, Normandie et Hauts-de-France. Dans le golfe du Lion, prévoyez un vent jusqu'à 60 km/h. Côté thermomètre, il fait 1 à 13 degrés ce matin, 8 à 20 degrés cet après-midi, 8 à Strasbourg, 12 à Brest, Lille et Paris, 13 à Rennes et Bordeaux, 14 à Biarritz et à Clermont-Ferrand, 15 à Lyon, 16 à Perpignan et à Marseille et 20 à Ajaccio.
Le 5-6 sur France Inter.
Et c'est l'heure de retrouver la playlist de Mathieu Conquet. Bonjour Mathieu.
Bonjour Marion.
Et ce matin, dans la série des meilleurs albums de l'année choisis par les programmateurs de France Inter, vous avez choisi de nous parler de Clips.
Mais qui est aussi Clips, un de mes chouchous, j'avoue. Deux frères et un ami de longue date qui n'avaient pas fait d'album ensemble depuis 15 ans. Des retrouvailles qui claquent comme un fouet. Et tiens, justement, on écoute Chains and Whips. Let's just get rich. Choke my neck, nigga, and ice my bitch. Beat the system with chains and whips. This is culturally inappropriate. Tout ce dont tu me parles, c'est juste de devenir riche. Serre-moi le cou, négro, et refroidis ma chienne. Battre le système avec des chaînes et des fouets. Voilà, Pusha T, entendez, ne mâche pas ces mots. D'emblée, et même ce petit sample, This is culturally inappropriate, qui revient partout dans l'album de Clips, bah ça tient du clin d'œil malicieux. Qu'est-ce que l'appropriation culturelle en 2025 pour des rappeurs et un producteur qui ont grandi, eux, dans les années 80, dans la culture de l'échantillonnage et de l'emprunt, sans permission, Marion. Chains and Whips, c'est un hit au carré, puisque non seulement c'était le premier single de l'album qui voyait se reformer le groupe des deux frères, Malice et Pusha T, avec leur ami d'adolescence, Pharrell Williams, à la production. Ils sont connus en 93 à Virginia Beach et ils vont transformer le visage du rap à la fin des années 90, début 2000, avec Missy Elliott, Timbaland, qui eux aussi venaient de Virginie. Voilà, une réunion très attendue qui n'a pas déçu. Mais en plus, dans ce morceau enregistré cette année dans les studios Vuitton de Pharrell à Paris, on entend Kendrick Lamar qui, dans un couplet remarquable, met une sorte de point final à son affrontement contre Drake après un procès qui a pris fin en octobre 2025. Autre perle, autre invité de poids dans cet album de Clips, Tyler, The Creator. Tricky niggas puzzle me, I could never buy a bitch a Birkin cause she fucking me. I got homes I ain't sleep in, the options my nigga push, keep dirty white moving like mosh pits, they watch it. I'm like white bitches the way I pop shit, I need God to play the lead in my biopic. The curse of the sea rolls when you become the devil.
POV, Tyler, the Creator, invité chez Clips. Il parle de Dieu, du diable, pas que de ça d'ailleurs dans ce qu'on vient
d'entendre. Oui, il y a beaucoup de promos. Bah oui,
oui, un peu.
Oui, sans doute. Comme Malice, le grand frère de Clips, Tyler croit en Dieu, mais aussi il croit au diable et qui prend parfois le visage de ceux que l'on connaît comme Kanye West, avec qui Tyler a eu des démêlés. Je pourrais vous parler pendant des heures de la production impressionnante de Pharrell sur cet album, de l'alchimie retrouvée des deux frères Malice et Pusha T, mais puisqu'il s'agit de vous parler de l'album en entier, il faut aussi parler de la pochette, qui est une œuvre signée Cause, avec qui ils avaient déjà travaillé. Vous savez, Cause, c'est celui qui remplace les yeux de ses personnages par des croix. On reconnaît ici un Mickey tout en squelette avec une tête de mort un peu mignonne. Visuellement, comme sur le plan sonore, cet album de Clips est toujours en avance, so far ahead. They don't know what it is.
Through the lane, serving niggas cane, still ain't never hit a pothole. If I was Britney Griner, I'ma need Obama, only wanna swap his chapel. Furthest from the streets, Monica Denise, good bitches fuck with Rocco's. Put them in them cars, hanging out with stars, now it's hard to tell they not hoes. Your co-defendant claim immunity, it was you and he, how'd you not know? Unless he leaving court in a Bentley Sport just to meet you on a yacht though. Understand the art of war, all my niggas draw, so we all Picasso's. Me just being me, respect the PNB, I'll probably never eat at Roscoe's. Million ways to live, million ways to die, million stuff standing on toe. Million ways to wash it, million ways to stop it, pray for me cause we not though. Best believe I can whip a Christmas Eve with some work in a hot stove. They done took it all, praying that he fall. No more questions about Gestapo.
They don't know what it is when I'm on it. But once they figure it out, I don't want it.
So far. Niggas tried to sneeze at the blessing. How could I just leave was the question. Whistleblowers left me no choice. Ain't no referees up in heaven. No mistaking me for the reverend. Ushering the money, my confession. How your pastor whip a Rolls Royce? That was me pre-9/11. Look at me post-Armageddon. Walking with my dog, I am legend. The grass is greener on each side. I done been both Mason Bethers. I done been at both intersections. I done pulled Ocean's 11s. Even when the well ran dry, I done raised quotes in the desert. Tried to hide the dope in the message, like we did the coke in the Lexus. Same hands I used to whip work, see me turn them both into blessings. AMG the spokes for the extras. Only way to cope with the pressure. When you feel you in too deep, let God take the wheel like a Tesla.
They don't know what it is when I'm on it.
L'album de Clips a retrouvé dans les meilleurs disques de l'année 2025, sélectionné par France Inter et par vous, Mathieu. Alors on vous retrouve ce soir à 21h pour d'autres disques en avance sur leur temps.
Mais oui, il y aura aussi des anciens, comme la rencontre entre Fatboy Slim et les Rolling Stones. Je vous parlerai de Bar Italia, le groupe de rock, et puis de Nina Hagen, et même d'un album d'une bonne sœur.
Oh, ça va être chouette. Amen. Je remets le son à ce soir et merci Mathieu.
À ce soir.
À 5h42 sur France Inter, le grand reportage nous emmène en Ukraine, où la guerre est aussi culturelle, linguistique même. Là-bas, près d'un habitant sur cinq parle russe. Dans certains endroits comme Zaporijja, le russe est même la langue maternelle de la majorité de la population. Mais dans cette grande ville du sud de l'Ukraine, de plus en plus d'habitants font le choix d'arrêter, tout simplement. Boris Lomagne l'a constaté avec Jérémy Tuil et Yachar Fazilov.
Oui, nous sommes ici dans l'une des bibliothèques de Zaporijja et nous assistons à un cours d'ukrainien pour adultes. Au programme aujourd'hui, dictée, Anna est la professeure d'ukrainien, elle est aussi un peu prof d'histoire.
Le sud et l'est de l'Ukraine ont été massivement russifiés pendant toute la période soviétique. À l'époque, pour faire carrière, par exemple, il ne fallait parler qu'en russe. Et même après l'indépendance de l'Ukraine en 91, cette situation a plus ou moins perduré pendant 30 ans. Voilà pourquoi, jusqu'au début de la guerre, Zaporijja était une ville majoritairement russophone.
Mais tout a changé en 2022. Depuis, les Ukrainiens russophones veulent oublier leur langue maternelle. C'est le cas de Tetiana, l'une des élèves de ce cours.
En ce moment, j'essaie de m'imprégner de la langue ukrainienne. Le russe, c'est du passé.
Et c'est Anna, la professeure, qui résume bien, dans son ukrainien parfait, ce que pensent tous ses élèves de la langue russe.
C'est la langue de l'agresseur, de l'assassin qui essaie de nous envahir. Alors bien sûr, cette langue ne peut en aucun cas être la nôtre. La langue ukrainienne, de son côté, favorise l'unité du pays. Et l'unité, c'est la clé de notre victoire.
Parler ukrainien est un acte de résistance. La municipalité de Zaporijjia l'a bien compris. Les cours de langue pour adultes y sont dispensés gratuitement dans toutes les bibliothèques de la ville.
Et l'Ukraine efface peu à peu le russe de sa culture. Boris, c'est particulièrement visible au sein de l'armée ukrainienne.
L'armée qui est sans doute le premier professeur d'ukrainien du pays. Les ordres sont transmis en ukrainien, les documents sont écrits en ukrainien. Et puis surtout...
Sur les lignes de front, il vaut mieux parler ukrainien, sinon tu risques d'être confondu avec l'ennemi.
Lui, c'est le sergent-chef Victor. Il a toujours parlé russe jusqu'à sa mobilisation dans l'armée.
C'est un point positif de la guerre. Avant, je ne parlais pas bien ukrainien. Maintenant, je suis beaucoup plus à l'aise. Ça s'est fait naturellement.
Victor a abandonné le russe à l'image de la société ukrainienne. À l'école, le russe est désormais banni. Idem dans les administrations, dans les services publics. À la télé, à la radio, tout est en ukrainien. Et dans cette librairie de Zaporijjia, même constat, Vita est libraire.
Depuis le début de la Grande Guerre, dans toutes les librairies, les livres en russe et les livres d'auteurs russes ont été retirés. Et c'est très très rare qu'on nous en manque.
Vita n'a plus lu un seul livre en russe depuis le début de la guerre. Et tant pis, nous dit-elle, si elle a perdu une petite partie de son identité en délaissant sa langue maternelle. Son avenir s'écrit désormais en ukrainien.
Notre langue est plus riche, elle est plus colorée. Et pour moi, c'est plus enrichissant de lire en ukrainien qu'en russe.
Alors pour illustrer ses propos, Vita nous lit un extrait d'un poème ukrainien. Aimer l'Ukraine, dit entre autres ce poème, aimer sa langue, belle comme le chant du rossignol.
La bataille de la langue dans les zones russophones, un reportage de Boris Loumagne en Ukraine à retrouver sur le site internet de France Inter.
France Inter. Marion Lourd. Le 5-6.
Il est 5h46, l'heure de contacter notre invitée déjà debout, fromagère à Buzy dans le Béarn. Bonjour Marie Barbet.
Oui, bonjour.
Vous travaillez à la fromagerie Greuco à Buzy. Pourquoi est-ce que vous êtes déjà debout ?
Je suis déjà debout parce que je me prépare pour la livraison de la semaine, pour livrer toute la fabrication de cette semaine-là. Mmh. Voilà, je fais ma tournée Tarbes, Lourdes, Pau. Voilà, donc faut anticiper un peu.
Et ça se fait nécessairement très tôt, ça ?
Pour éviter... Enfin, oui, les livraisons, c'est souvent très très tôt pour arriver avant que les magasins ne ferment, pour réussir à tout livrer avant midi, midi et demi. Et ouais, à la fraîche.
Oui. À la fraîche, ouais. Commençons peut-être par votre production. Qu'est-ce que c'est que ce fromage que vous fabriquez, le Greuil ?
C'est un fromage de petit lait, c'est un fromage de lactosérum, au même titre que la ricotta en Italie, en Corse, brochu, voilà, en Espagne, le requesón. C'est du petit lait suite à la tome, parce qu'ici, donc, on est en Béarn avec les brebis laitières, la race locale, on fait la tome béarnaise. Certains ont l'appellation osso irati. Et il y a un résidu qui est le petit lait. Et avec cette matière, on a juste à le réchauffer et les dernières protéines sériques se flocculent et ça crée cette espèce de mousse là en surface qu'on vient ramasser, goûter et ça fait ce fromage, ce second fromage. Voilà, Greuil en Béarn, il a un nom comme ça, mais c'est vrai que dans d'autres parties en France, il y a un autre nom, le sérac, la recuite, le brochu, voilà.
Et ça ressemble effectivement à de la ricotta un peu.
Ah ben, c'est le même type de fromage. Alors là-bas, c'est plutôt du vache, mais il peut y avoir du brebis, mais ici, c'est surtout brebis, ouais.
Et nutritionnellement, voilà. Qu'est-ce que ça vaut ?
Ah, ça vaut le top du top, c'est-à-dire que c'est la protéine sérique, donc c'est une protéine très digeste qu'on retrouve, donc on n'a vraiment pas besoin d'en manger beaucoup pour se sentir rassasié. Et donc la particularité du grey, c'est que c'est une protéine sans gras. Il y a un petit peu de gras quand même pour amener le liant, pour amener le goût. C'est très 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 recherché. Protéine sans gras, c'est très rare, hein. Souvent la protéine est accompagnée de gras, de matière grasse. Et ensuite aussi au niveau calcium, c'est vraiment très très bien placé, quoi. Par exemple, c'est 3 fois plus que la crème fraîche, 2 fois plus qu'un yaourt. Ouais.
Et comment ça se passe ? Vous collectez le petit lait en fait auprès de d'entreprises partenaires ?
Ouais, c'est ça. En fait, moi, je suis vraiment dans le bassin là, donc il y a énormément d'éleveurs bergers. Et donc oui, j'en ai 8-7 qui me suivent et je vais collecter le petit lait qui serait jeté. Donc je le valorise. Donc je collecte tous les matins et ensuite j'enchaîne avec la fabrication à la maison dans mon atelier. Ça prend une bonne journée pour tout faire. Et voilà.
Et puis vous livrez ensuite donc au petit matin, à la fraîche, des clients qui sont assez variés.
Oui, là, la tournée hebdomadaire, c'est plutôt des petits commerçants de magasins de producteurs. J'ai des petits bouchers. Et le reste de la semaine, c'est plutôt des grossistes, des crémiers où ça part en transporteur.
Ça veut dire qu'on peut vous trouver un peu partout en France ?
Ouais, un peu partout en France. Ouais. Sur mon site internet, il y a les points de vente. Donc avec les grossistes, grâce à eux, ça part Bordeaux, Toulouse, Paris. Et sinon, après, en local, c'est sud-ouest, quoi. Enfin, par chez moi, Pau, Tarbes, Lourdes.
Et donc la prochaine étape, c'est d'arriver à rémunérer ces entreprises, ces éleveurs qui vous fournissent le petit lait, en fait.
Ah ouais, alors c'est rigolo, je passe à la radio nationale, ils sont même pas au courant. Ils m'entendent.
On m'a soufflé cette information.
Ouais, j'aimerais boucler la boucle. Pour l'instant, je leur en débarrasse gratuitement, ils me le laissent, mais c'est vrai que j'ai réussi à créer de la richesse sur ce déchet.
Qui n'en est plus un.
Qui n'en est pas du tout un, qui a une grande richesse. Et pour que tout le monde y gagne, j'aimerais que ce soit juste et les rémunérer un peu sur l'approvisionnement de cette matière première. Ouais.
Et en quelques mots, parce qu'on arrive à la fin de cet entretien, une petite recette là, du matin pour, avec le greuil.
Moi, ce que j'adore, tout simple, sel, poivre, échalote.
Sel, poivre, échalote sur du pain ?
Ouais, sur du pain. Et je voulais juste dire, je peux pas être là sans parler des éleveurs qui sont en colère. Moi je suis vraiment choquée par les méthodes de l'État.
Sur la dermatose nodulaire.
Ouais, c'est ça. Qui agit dans l'urgence avec une violence inadmissible pour les hommes et les animaux. Et voilà, ça crée une grande insécurité et ça me donne l'impression que l'État fragilise l'élevage français dont je suis dépendante moi-même. Ne le protège pas, notamment avec le Mercosur qui se trame en toile de fond.
Voilà, qui donc, est reporté à janvier prochain. Mais oui, donc l'abattage, vous êtes opposé à l'abattage systématique des bêtes qui est préconisé par l'État et les scientifiques pour essayer d'éradiquer l'épidémie de dermatose.
Ouais, enfin pour moi, il y a d'autres choses qui se trament en toile de fond et il faut prendre du recul et aller essayer de voir des choses plus profondes et plus durables, surtout. Parce que là, on a le nez là-dedans, mais...
La prévention, peut-être.
Sûrement. Prévention avec ces grands défis du réchauffement climatique qui nous pendonnaient et qui ne sont que le début.
Ouais, Marie Barbet, fromagère à Buzy, le message est bien passé. Merci beaucoup de nous avoir répondu sur France Inter et de nous avoir mis en appétit aussi. Bonne journée. 5h52, avant de déguster un café philo avec Patricia Martin, une autre queen, Beyoncé, son dernier album très country et ce morceau Bodyguard. 1, 2, 3, 4.
So sweet, I give you kisses in the backseat. I whisper secrets in the backbeat. It out.
across my neck. We've been hurting, but it's happy out.
Bodyguard de Beyoncé, tiré de son album sorti l'année dernière.
France Inter. Le 5-6.
Et un café philo pour se réveiller de bon matin. Bonjour Patricia Martin.
Il y en a qui en ont besoin. Bonjour Marion Lou.
Et oui, parce que parmi les auditeurs qui nous écoutent, certains ont peut-être peu, pas ou mal dormi.
Oui, et j'en connais même qui vont se reconnaître dans les propos de Marie Darrieussecq.
Il me semble qu'il y a autant d'insomnie que d'insomniaque, mais on peut en voir des grands ensembles. Et dans mon cas, effectivement, je ne dors pas parce que j'ai l'impression qu'une catastrophe va arriver si je dors. J'ai l'impression d'être le pilote d'un avion qui va se crasher si je m'endors. C'est très très mauvais. D'un certain côté, c'est complètement mégalomane. Enfin, si je dors, le monde continue de tourner. Mais je n'arrive pas à m'en convaincre. Et je crois qu'il y a au moins une petite loupiote, une petite veilleuse qui veille les gens que j'aime. Si je m'endors, qu'est-ce qui va leur arriver ? Les insomniaques se reconnaîtront, je pense. À 4 heures du matin, on est dans un état de veille qui n'est pas vraiment de la veille diurne. C'est une forme de vertige, de looping, de somnambulisme éveillé, où on ne pense pas droit. Et en même temps, on s'égare dans des zones très proches du rêve, qui peuvent être cauchemardesques, et puis qui, parfois, dans des moments de grâce, peuvent apporter. Il m'est arrivé d'écrire de temps en temps la nuit, mais c'est quand même très rare. En général, j'aimerais mieux dormir.
Ouais, on aime tous mieux dormir la nuit quand même. Hein.
Ah oui, je crois. Alors vous êtes trop jeune, ma chère Marion, pour vous rappeler la femme de radio dont nous parle le philosophe Michael Fossel. C'était une femme de la nuit.
Je ne peux pas ne pas parler, puisque nous sommes sur France Inter, de ce qui a constitué longtemps l'émission phare, si j'ose dire, de la nuit, animée par Macha Béranger. Elle avait une très belle formule pour parler de ses auditeurs. Hein. Je le rappelle peut-être pour les plus jeunes, c'était une émission donc nocturne, où les gens pouvaient appeler, les appelaient les sans-sommeil, c'est-à-dire ceux qui travaillaient la nuit ou ceux qui étaient insomniaques, ne pouvaient pas dormir, peut-être ceux qui rentraient aussi de fête, mais qui créaient une sorte de solidarité, de communauté, fondée d'ailleurs aussi, c'est de la radio. La radio, c'est la nuit, je dirais, parce que c'est le son précisément, hein, ça n'est pas quelque chose que l'on peut voir, ça nous accompagne partout, ça peut nous accompagner, je dirais, au-delà de la différence du jour et de la nuit. Et Macha Béranger avait ce don qu'elle avait d'abord de sa voix, mais aussi de faire entendre le cliquetis de son briquet, on fumait à l'époque dans les studios, de ses bracelets, c'est-à-dire au fond de constituer comme ça une sorte d'atmosphère qui n'est pas fondée sur la vision et qui, en tout cas pour moi, je l'ai écouté à l'extrême fin, mais pour constituer une sorte de communauté de ceux qui n'avaient pas de sommeil pour des raisons souvent tristes, mais qui de ce point de vue-là se sentaient aussi moins seuls de ne pas être dévolus solitairement à la nuit.
Non, Macha Béranger sur France Inter. Le philosophe Michael Fossel, donc on pourra écouter ce soir dans l'heure philo, Patricia. Il a écrit un livre sur la nuit, il sera accompagné du géographe Luc Gladinski, spécialiste des Night Studies.
Oui, et précisons, Marion, que c'est une rediffusion.
C'est une rediffusion, effectivement. À ce soir, 20h10.
À ce soir.
France Inter présente
le podcast Cache Cache.
Zoé Varié.
Il est l'heure d'aller se coucher. Mais mon doudou s'est encore caché. Où est-ce que mon doudou a bien pu aller ? À la bibliothèque ? Dans un arbre ? Au carnaval de Venise ?
Cache-cache.
Viens m'aider à retrouver mon doudou sur l'application Radio France.
Avec
avec France Inter, un podcast par jour, des acquis pour toujours.
5h58.
La météo avec les poulets de Loué. Régalez-vous d'un savoureux poulet fermier de Loué, élevé en liberté. Loué, libre par nature.
Ali Badou est déjà là et Magali Rochereau nous a rejoint dans ce studio. C'est notre Madame Météo du jour. Bonjour,
bonjour Magali.
Et bonjour Marion, bonjour Ali. C'est une journée pluvieuse qui s'annonce.
Et oui, avec cette perturbation qui traverse le pays aujourd'hui, de la Nouvelle-Aquitaine au centre jusqu'à l'Île-de-France et les Hauts-de-France, et qui progresse vers l'est en faiblissant tout au long de la journée. Plus au sud, les entrées maritimes provoquent de la pluie sur les Cévennes qui gagnent en intensité cet après-midi et donnent de bons cumuls jusqu'aux plaines de l'Hérault et jusqu'en vallée du Rhône, en Val-de-Saône et sur le Jura en soirée. Cet épisode pluvieux est parti pour durer environ 3 jours entre Cévennes et région PACA. Ailleurs, de la Nouvelle-Aquitaine à la Bourgogne, la couverture nuageuse reste dense, même à l'arrière sur l'Île-de-France, mais des éclaircies apparaissent dans le Finistère ce matin, puis en Normandie et jusqu'à la Côte d'Opale cet après-midi.
Un réveil toujours dans la douceur côté température.
Oui, ce matin, les minimales restent 12 jusqu'à 14 degrés à Lens-le-Saunier. Il fait 12 dans la capitale. C'est quand même plus frais dans les plaines d'Alsace où Météo France recense seulement 1 à 2 degrés. Et puis quand même, cet après-midi, les maximales amorcent une petite baisse dans la moitié ouest du pays. Mais les températures restent encore bien au-dessus des moyennes dans l'est et notamment dans le centre-est avec encore 14-15 degrés prévus à Clermont-Ferrand.
Eh ben, on n'a pas le temps de faire le programme, Ali, mais on va en parler un peu plus tard.
C'est un beau programme.
Il est 6h sur France Inter.